la flèche irréprochable. Philippe Frétinier sur Radio Grand Ciel.
J'ai parlé précédemment du contexte culturel, historique, économique aussi, qui a présidé à ce qu'on peut appeler la croisade des cathédrales. C'est vraiment une époque où il y a un effort de construction particulièrement important. C'est l'un des plus importants de notre histoire avec la fin du 19e et le 20e siècle, c'est probablement l'époque où on construit le plus. À l'époque de Chartres, on construit une bonne douzaine de cathédrales, c'est-à-dire vers 1200 à peu près, 400 églises, des ponts, des fortifications, des demeures, des résidences. Donc c'est un effort sans précédent. Et bien sûr que ce sont les conditions économiques qui vont favoriser cela. Il y a un mouvement démographique aussi, donc l'essor des villes avec le commerce. Et Chartres n'échappe pas à la règle, puisqu'à ce moment-là, contrairement à ce qui sera le cas par la suite, il y a une relative prospérité, avec entre autres les vins de Beauce, qui finiront par perdre de qualité, donc perdre de leur attractivité, mais aussi les tisserands. Il y a des corporations relativement puissantes à Chartres qui font qu'on a les moyens de construire ce que l'on veut construire. Mais c'est une constante dans l'histoire de l'art. Quand on voit les grandes épopées artistiques, la Renaissance à Florence, avec la fortune des Médicis, l'Espagne de Philippe II avec la conquête de l'Amérique, et donc toutes les richesses, l'or, l'argent qui arrivent d'Amérique, ça donne naissance à ce qu'on appelle le siècle d'or espagnol, qui est très important notamment dans le théâtre et dans la musique, ce qui est malheureusement méconnu ici. Le 17e hollandais, dans la période florissante, on l'appelle aussi le siècle d'or de la peinture hollandaise. C'est si vrai d'ailleurs que quand il va y avoir, suite à des spéculations, on dirait aujourd'hui un krach boursier, notamment avec la fameuse histoire des tulipes, tout le monde connaît ça, un peintre comme Vermeer, par exemple, va d'un seul coup devenir pauvre parce qu'il perd ses clients. Donc il faut bien mettre en parallèle tous les éléments, c'est-à-dire des éléments économiques, culturels, intellectuels, historiques aussi, de préférence une période relativement paisible plutôt que des guerres, puisque par exemple la guerre de 100 ans, on voit bien que pendant la guerre de 100 ans, il y a un recul de la construction des édifices religieux, et pour cause, on emploie les ressources pour des édifices militaires. Donc Chartres se situe vraiment dans ce moment-là. C'est vraiment une des périodes de plus grandes constructions, encore une fois, que l'on connaisse. L'autre chose remarquable qui fait que Chartres est particulièrement intéressante, d'abord, c'est la rapidité du chantier, puisque c'est quelques dizaines d'années, moins d'une quarantaine d'années, ce qui est le cas pour pratiquement d'ailleurs la plupart des cathédrales du bassin parisien. Ce qui donne une relative unité, je dis bien relative parce que je reviendrai sur la question de l'unité, y compris à Chartres, des édifices. Et donc, cette floraison de chantiers, de construction, va aussi faciliter les innovations, puisque évidemment, plus on construit, plus on acquiert de l'expérience et plus on est capable d'entrevoir des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux, comme la grandeur croissante des édifices. Donc, ça, c'est un fait majeur. En plus, à Chartres, on peut dire que, grosso modo, on garde la crypte de l'édifice précédent, après l'incendie de 1194, le massif occidental avec les tours et la façade, et derrière, on fait un édifice entièrement nouveau. Il y a donc une grande unité dans la construction dès le départ. Ce court délai, la spécificité du chantier chartrain, qui grosso modo se construit quand même presque sur toute la surface de l'édifice, même si on peut introduire des différences entre le chœur et la nef, que je vais d'ailleurs développer, font que c'est sans équivalent dans l'histoire de l'architecture gothique. Et Puis il y a le fait que Chartres a été épargné par les ravages du temps, par les restaurations intempestives du XIXe siècle dues à Wyatt dans le monde anglo-saxon ou à Viollet-le-Duc, dont il ne faut pas introduire un procès trop sévère. Il faut être équitable parce que sans ces architectes-là, sans la création des monuments historiques, sans ce qui s'est passé au XIXe siècle, certains de ces édifices ne seraient plus là. Le problème, c'est qu'ils ont une démarche qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, puisque c'est particulièrement le cas de Viollet-le-Duc. Ils restaurent l'édifice tel qu'ils pensent qu'il aurait dû être finalement. Alors, fort heureusement, c'est éloigné de ces tendances fâcheuses, mais Chartres est resté à l'abri de tout cela, parce que, par exemple, à Amiens, la Galerie des Rois, elle a été refaite par Viollet-le-Duc. On comprend mal pourquoi, puisqu'on a des clichés photographiques qui montrent l'état de la Galerie des Rois, et a priori, on se demande bien pourquoi il l'a refaite. Néanmoins, Chartres échappe à tout cela. Elle a échappé aux destructions éventuelles des guerres, ce qui n'a pas été le cas de Reims, par exemple. Et elle a gardé, pour l'essentiel, tous ses vitraux, à quelques exceptions près. Ces vitraux ont été parfois restaurés au fil des siècles, mais pas plus que ça. Elle a gardé toute sa statuaire. C'est d'ailleurs le programme statuaire le plus ambitieux et le plus important de toutes les cathédrales, avec trois façades composées de trois porches d'égale importance. Ça, c'est un cas quasi unique. Et donc un programme iconographique particulièrement ambitieux. Et les statues n'ont guère souffert du temps, sauf dans quelques cas. La plupart des petits dégâts que l'on peut constater ne sont pas dus au vandalisme des hommes, comme on pourrait le croire, mais plutôt aux effets du gel sur des parties un peu plus fragiles de la statue, où il suffisait qu'il y ait une petite fissure, une anfractuosité. L'eau se met dans cet endroit et en gelant, évidemment, il y a un effet de volume qui fait que ça fait casser la sculpture à cet endroit-là. Mais si vous observez attentivement les trois porches de chaque façade, il y a très très peu de destruction, un peu au portail nord, mais très peu, vraiment très peu. Donc programme complet sur le plan des vitraux, programme complet sur le plan de la statuaire, construction rapide, puisque d'après le célèbre poème de Jean le Marchand, on sait que l'édifice a été couvert de voûtes en moins d'une trentaine d'années pour le gros œuvre. Donc c'est vraiment ramassé dans le temps. Programme complet, ça c'est ce qui fait de Chartres un monument absolument exceptionnel. Thank you. Nous venons d'écouter une pièce de Michel Corrette, claveciniste et organiste, donc à présent pour l'orgue, qui s'appelle « Tous les bourgeois de Chartres ». Et dans mon souci de partager avec vous mon amour de la musique d'orgue française, injustement méconnue, j'ai souhaité vous faire partager cette musique qui est jouée sur un orgue historique qui s'appelle l'orgue de Souvigny et qui peut faire découvrir aux Chartrains ce que c'est qu'un bel orgue. Je rappelle pour mémoire, je pense que j'ai déjà mentionné les principaux chantiers qui ont eu lieu jusqu'alors. On identifie en général comme les premières cathédrales, comme étant les premières cathédrales gothiques, celle de Saint-Denis, celle de Sens. Ensuite, il y a celle de Noyon, de Lens, de Soissons. Ça, ce sont les cathédrales qui sont commencées, ce qu'on pourrait dire la première croisade des cathédrales avant les années 1200. Paris, qui a commencé sous l'impulsion de Maurice de Sully vers 1164, mais qui va être un chantier plus long que celui de Chartres. Et donc, Chartres intervient vraiment au tournant des années 1200. En même temps que Chartres, vraiment contemporaine de Chartres, il y a la cathédrale de Bourges, qui offre un parti très très différent. C'est une cathédrale absolument sublime, qu'il faut absolument connaître. Mais Chartres, c'est vraiment sur le plan de la croix latine, donc une nef, un sanctuaire, un transept. Bourges, ce n'est pas du tout ce plan-là. C'est vraiment une gigantesque nef avec le sanctuaire dans le prolongement et doublé de deux bas-côtés. Donc c'est vraiment un grand vaisseau qui n'est pas sur la forme d'une croix latine. Mais c'est intéressant de parler de Bourges parce que c'est vraiment un choix de plans, de parties architecturaux qui sont différents de Chartres et qui ont lieu en même temps que Chartres. Ce qui montre bien qu'avec la diversité qu'on peut constater dans les édifices que j'ai nommés, la construction simultanée de Chartres et de Bourges, il n'y a pas encore un plan type défini que l'on va retrouver ensuite dans les autres cathédrales. Au fond, c'est quand même à Chartres que ça se passe, puisque, je l'ai déjà mentionné, hein, le plan de Chartres, finalement, c'est le plan qu'on va retrouver à Amiens, le plan qu'on va retrouver à Reims, les cathédrales qui sont construites après. Alors évidemment, comme je l'ai déjà dit aussi, plus haute, plus grande. Ça, c'est une des particularités de la croisade des cathédrales. Alors, il y a plusieurs raisons au gigantisme croissant des chantiers. Le premier, on va l'évacuer rapidement parce que ce n'est pas le plus glorieux, mais il y a la vanité des hommes, aussi bien des constructeurs que des évêques, qui veulent toujours un édifice plus beau et plus grand que le précédent. Mais il y a aussi une sorte peut-être de griserie, aujourd'hui en termes modernes, on dirait peut-être de course à la performance, essayer de repousser constamment les limites. Hein. Ce qui fait qu'on va monter très haut, par exemple pour les voûtes, jusqu'à 42 mètres à Amiens, et puis encore plus haut, 45 mètres à Beauvais, avec tous les problèmes que ça va poser, puisque en même temps qu'on construit de plus en plus haut, on construit de plus en plus fin. Et Chartres est vraiment la cathédrale pivot entre ces deux temps de l'architecture gothique, parce que les murs de la nef sont épais, les contreforts sont très gros à la base. Entre chaque contrefort, il y a une seule fenêtre. Et dans les cathédrales suivantes, ça ne va plus être le cas. D'ailleurs, ça change déjà à Chartres, c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on parle de l'unité de l'édifice. C'est vrai qu'on a une impression d'unité quand on pénètre dans la cathédrale, mais quand on regarde bien, il y a des différences entre la nef et le sanctuaire, puisque dans le sanctuaire, entre chaque contrefort, il y a deux fenêtres, des fenêtres jumelées, c'est-à-dire que les fenêtres occupent toute la surface du mur entre les deux contreforts. Elles sont encadrées comme un tableau par les contreforts et par une grosse moulure en bas qui marque le niveau du sol de la galerie autour du chœur. Alors que dans la nef, ces fenêtres sont plus étroites, elles sont seules, elles sont sur un mur entre les deux contreforts. Donc on voit bien que Chartres, on est là dans une expérimentation, qu'on change de partie au fur et à mesure de la construction de l'édifice. Ce qui est aussi très important à Chartres, c'est la continuité des retombées, des forces à partir des voûtes jusqu'au sol, par l'intermédiaire de colonnettes qui descendent des nervures de la voûte jusqu'au sol le long des piliers. On parle de colonnes engagées. Ça, c'est aussi quand même un élément caractéristique qui est lié au fait qu'à Chartres, à cause de l'existence de la crypte des cathédrales précédentes, c'est-à-dire de l'époque de Fulbert, les deux bras de la crypte sont très éloignés, puisqu'il y a pratiquement 17 mètres de distance entre les deux bras. Et on n'avait pas l'habitude de couvrir des espaces aussi larges. Les cathédrales précédentes sont plus étroites, et on a utilisé pour construire les voûtes, pour voûter les nefs, un système qu'on appelle système de voûte à 6 parties, c'est-à-dire des voûtes à 6 parties sur un plan carré, avec des forces inégales qui se répartissent sur les piliers, puisque vous avez un arc le long du mur, qu'on appelle l'arc formeret, vous avez un arc doublot dans le sens de la largeur de la nef, sauf que comme la portée du carré est assez grande, on est obligé de marquer un arc intermédiaire et les arcs diagonaux qu'on appelle les arcs ogifs. Ce qui fait que sur un pilier, il y a trois arcs qui reposent, donc les arcs ogifs, les arcs doublots et les arcs formerets. Et au milieu, il y a un pilier qui ne reçoit que le poids d'un seul arc, qui est un arc qui supporte le milieu de la voûte. Et ça va poser des problèmes constamment, on le voit bien, parce que d'un chantier à l'autre, il y a des partis pris différents, que ce soit entre Sens et Notre-Dame de Paris, par exemple, parce que ça donne donc ce qu'on appelle une pile forte et une pile faible. Il y a donc une pile qui reçoit beaucoup plus de charge que l'autre. Donc logiquement, on construit une pile moins grosse, puisqu'elle reçoit moins de force. Sauf que visuellement, évidemment, ça pose des problèmes, parce que c'est un manque d'unité dans le développement de la nef. À Chartres, comme on a une surface qui est très large, on décide de faire une voûte sur un plan rectangulaire pour arriver à couvrir cette surface plus large que dans l'édifice précédent. Du coup, comme on a une voûte sur un plan rectangulaire, nous n'avons plus cet arc du milieu du plan carré, et nous avons le même nombre d'arcs qui reposent, d'arcs de la voûte qui reposent sur les piliers. Donc il n'y a plus de piles fortes et de piles faibles. Et si vous allez dans la cathédrale, vous verrez que tous les piliers ont absolument la même taille. Mais il y a un petit indice qui montre bien que c'est la première fois que c'est le cas et qu'on est presque surpris par cette unité, puisqu'on va, au niveau décoratif, introduire une petite différence d'un pilier à l'autre, ce qui est une trace des piliers différents d'une travée à l'autre dans les édifices construits avant Chartres, puisque le pilier principal qui supporte la plus grosse de la masse est tantôt de forme cylindrique, avec les colonnes engagées qui reçoivent les différents arcs de forme cylindrique, et la colonne suivante, le noyau de la colonne est hexagonal, et les colonnes engagées sont elles aussi hexagonales. C'est-à-dire qu'on a un plan circulaire, un plan octogonal, et ainsi de suite. C'est pour introduire une différence, une petite différence, un rythme, parce qu'on a l'impression, on est presque surpris par cette unité des piles qui sont égales d'une travée à l'autre. Ça, c'est vraiment l'introduction significative de Chartres, qui va être reprise après dans tous les édifices qui suivent, sauf qu'on s'habitue à l'unité des piles, et il n'y a plus cette petite variation décorative d'une pile à l'autre. Ce qui est vraiment l'élément central de l'architecture gothique, qu'on décrypte le mieux pour la première fois à Chartres, c'est cette idée d'avoir raisonné par des forces, donc des lignes. C'est un peu comme en charpente, c'est-à-dire que quand un charpentier pense à charpente, il ne voit pas des poutres, il voit des lignes, qui en fait sont le cœur des poutres. Hein. Donc il trace des lignes droites d'un point à un autre pour construire sa charpente. D'ailleurs, dans les maisons anciennes, souvent on voit que la poutre, elle n'est vraiment pas droite, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est d'aller d'un point à un autre, et même si c'est entre les deux, ce n'est pas droit, ce n'est pas bien grave. Dans la pierre à Chartres, c'est un peu la même chose, et ça va être la même chose d'ailleurs dans tous les édifices après, mais c'est déjà, on pense déjà comme ça avant Chartres, c'est-à-dire qu'on raisonne en termes de ligne et de force. Et cette voûte, qui est quand même, même si elle est constituée d'une pierre relativement légère, le tuffeau du Val-de-Loire dans le cas de Chartres, elle représente évidemment un certain poids. Et donc, les forces qui s'exercent sur les murs, les maçons du XIIIe siècle vont les dévier à l'extérieur du mur vers les contreforts. C'est à ça que servent les contreforts, c'est à recevoir une partie des forces de la voûte qui s'exerce sur les murs et dévier vers les contreforts. Et l'autre partie, donc, dans ces fameuses colonnettes qui descendent des arcs. Il faut regarder la cathédrale de ce point de vue-là comme des forces qui descendent et non pas des forces qui montent. Les piliers montent d'une certaine façon structurellement, ils descendent pour recueillir toutes les forces qui s'exercent avec le poids des voûtes. Et ça, c'est vraiment l'élément fondamental de l'architecture gothique, qui d'une certaine façon est très moderne, c'est-à-dire qu'on raisonne en termes de structure. Hein. Et donc, tout est conçu pour recevoir des forces, les équilibrer. Et finalement, dans une cathédrale, on ne peut pas enlever une partie sans risquer de compromettre l'ensemble parce que toutes ces forces s'équilibrent. Et d'ailleurs, dans l'actualité, vous avez évidemment entendu parler des problèmes de Notre-Dame de Paris et on craint énormément pour son avenir parce qu'il n'est pas encore assuré, parce que justement, l'équilibre des forces a été rompu, il y a une partie des voûtes de la nef qui s'est effondrée, comme vous le savez, et donc l'équilibre est plus instable parce qu'il manque des éléments qui contribuent à cet équilibre général de l'ensemble de la structure. Le mois prochain, nous continuerons à parler en termes de structure de l'édifice chartrain. Nous allons écouter un Noël en dialogue, toujours à l'orgue, de Louis-Claude Daquin, autre organiste français du XVIIIe siècle. Et là, il s'agit d'un orgue moderne, mais construit suivant les principes d'un traité de facture d'orgue du XVIIIe siècle. Donc, c'est un orgue baroque. Et là aussi, vous admirerez la beauté et la chaleur des timbres.